Strauss, Adam Roth, chapitre 3, au pays des diamants, une attaque qui rate, le terrible Boer, ruse vaut mieux que violence, comment, bien connu de la police, je passais pour aller vendre mon butin. Je n'ose plus sortir de chez moi de peur de me trouver nez à nez avec l'homme de police à qui j'ai volé son diamant. Évidemment, il est incapable de prouver quoi que ce soit. Il devrait finir par s'excuser, invoquer l'erreur, résultat d'une fâcheuse ressemblance. Mais est-ce qu'on ne sait jamais? Mais j'ai besoin d'argent, voilà le mot lâché. Il y a déjà 2 mois que je n'ai pas travaillé. 2 mois qu'avec mes gothies, j'ai dérobé au train rapide entre de Calais et Paris 700 000 francs de titres. Extérieur espagnol, dette égyptienne, V, le receveur belge, lésiné, râlé. Et qu'est-ce qui m'en est resté pour ma part? 150 000 francs, une misère. Mon train de vie me coûte cher et je suis volé. Par exemple, j'aurais mauvaise grâce de me plaindre. L'argent me coule entre les doigts. J'aime le jeu, ou pour mieux dire, j'aime à courir ma chance. Je me promène, c'est avec quelqu'un que je sais assez riche pour tenir un pari et régler la perte sans se ruiner. Je tire un sou de ma poche. Pile ou face? Bon, combien en jeu? Bon, 100 livres, 2500 francs. J'aime le jeu et je consens à jouer avec des Grecs. Je les connais pour ce qu'ils sont. Je sais que leur métier est de tricher et que je ne suis pas de force, tant mieux. Ma chance est plus faible, l'émotion plus forte. Donc, j'ai besoin de beaucoup d'argent. Il me faut en gros un énorme butin. Mais où le trouver? Je médite là-dessus. Après avoir envisagé et rejeté bien des projets, une réflexion me séduit. Je la creuse, je me renseigne. C'est décidé, je vais au Cap. Ce sera Charlie King que je vais prendre avec moi, associé à ma fortune. Il connaît Cape Town. C'est un fameux atout dans son jeu de savoir se diriger dans la localité où on va opérer. On évite des tâtonnements, des imprudences. On gagne du temps. Opérer vite et à coup sûr, c'est dans ma partie un gage de succès. J'envoie une dépêche à Charlet. Venez déjeuner. Et tout de suite, je le mets en demeure. Est-ce que vous allez avec moi au Cap? Pour affaire? Cela va sans dire. Importante? Très. Et qu'est-ce que c'est? Bon, intercepter un envoi de diamants de Kimberley sur Londres. Mais vous êtes fou. Peut-être bien, mais... qu'est-ce qui vous le fait supposer? Mais toute personne trouvée en possession d'un diamant dont elle ne pourra justifier la provenance sera pendue. Oui, c'est la loi anglaise en Afrique australe. Elle a été faite pour obliger les nègres qui travaillent dans les mines à remettre intégralement ce qu'ils trouvent. Mais on a pendu des blancs. Oh, mais je n'ai pas plus que vous envie d'une cravate de chanvre. S'il n'y a pas moyen de subtiliser proprement les diamants, on n'y touchera pas. Ce serait le diable si nous ne trouvions rien d'autre dans ce cas pour nous rattraper des frais du voyage. Bon, alors j'en suis. Au Cap, j'apporte à leur adresse mes lettres de recommandation chez de petits commerçants, des boutiquiers et de braves gens. Je formule insidieusement mes questions, qu'ils me conseillent ce que je suggère. En conformité de leur avis, je loue un modeste logement avec un petit magasin. Je trouve cela près de la poste. J'achète une carriole, un double poney. Et nous voilà, Charlie et moi, voyageant par monts et par vaux dans le sud africain. Nous allons de ferme en ferme, nous informant si on a des plumes d'autruche, combien on en demande. Pas un de ces rustres ne se méfie. Ils parlent, font les beaux esprits. Tous se moquent de notre gaucherie et de notre naïveté. Mais à leur insu, ils nous renseignent. À la mine, rien à faire. Nous n'aurons pas besoin d'y aller pour nous en rendre compte. Nous savons maintenant qu'on serre les diamants par l'eau dans une boîte d'acier fermée à clé et cachetée. Cette boîte est déposée dans une petite voiture blindée, solide et légère. On plombe la portière, on la ferme à clé, on la cadenasse. Un cocher, juché sur un siège élevé, conduit à vive allure ses deux chevaux. Et un Boer à cheval, son fusil armé au poing, l'escorte. Nous avons rencontré la voiture. Mais ce qu'il était grand, ce Boer, il n'avait pas du tout l'air commode. Je reste rêveur. Charlet a un plan. Oui, peut-être bien. Bon, je ne dis ni oui ni non. Je pense qu'il faut gagner du temps. Cette voiture est destinée à arriver à Cape Town en concordance avec le départ du steamer sur Londres. Si l'on pouvait lui faire manquer le bateau. Oui, mais comment? Nous étudions la route et chaque accident de terrain. Charles King se moque. Lui, qui d'abord ne voulait rien savoir, témoigne maintenant de son impatience. Un Cleaver Boy impatient, comme c'est bête. Mais non, non, il a son plan. Mais en présence de cette force armée, il faut du renfort. Car, c'est bien entendu, à la mine, rien à faire. À Cape Town, nos chances sont moindres encore. C'est à voir. Mais il ne m'écoute pas, il conclut. C'est en cours de route qu'il faut enlever le paquet. J'ai l'homme qu'il nous faut. Qui est-ce? Oh, vous ne le connaissez pas, Thomas Anderson, un Américain sud-écossais. Quel gaillard! Il a la tête de plus que le bord de tout à l'heure. Il a été capitaine de navire. Il a acheté un vieux sabot, il l'a assuré pour une somme trop forte. La compagnie n'a rien dit quand elle a encaissé la palme, la prime. Alors, lorsqu'il a exigé le règlement, après avoir sabordé proprement son navire au-dessus de la ligne de flottaison, ce qu'il a envoyé au fond de la baie de Galveston, les assureurs ont rédigé une plainte. Mais il se cache à Cape Town. Il n'a pas d'argent. Il vit en attendant un coup. Et il est trop bête pour le préparer. Anderson accepta d'emblée. Il nous amena encore une recrue, son second, un gaillard qui sûrement ne devait pas avoir froid aux yeux. Tous deux arrivèrent avec des revolvers énormes qui gonflaient leurs poches, des couteaux franchement affinés, et Charlet également brandit un pistolet dans un enthousiasme comique. J'ôtai ma casquette et fus m'asseoir. Et j'ouvris un livre. Ils restèrent plus étonnés de mon mutisme que de mes actes. Mais quelle est cette comédie? S'enquit Charlet. Une comédie, m'écriai-je, mais c'est vous qui êtes les comédiens. Voilà, vous vous travestissez en brigand, mais quel carnaval! Oh, je vous déclare que si vous ne réussissez à l'instant vos armes farouches au magasin des accessoires, je reste ici. Mais le bourg, objecta Charlet. Tant pis, il me tuera peut-être. Mais si vous le tuez, j'en suis certain, Nous serons tous pendus. » Mais en rechignant, ils abandonnèrent leur arsenal. Nous n'avons pas à lambiner si nous voulons arriver à temps. Tout nous favorise. La lune est nouvelle, le ciel est couvert. On y voit goutte par cette nuit de juillet, l'hiver austral. La voiture devra arriver dans une heure ou deux au pont de la route. Nous avons situé le théâtre de l'attentat. Là, deux gros arbres en face l'un de l'autre nous serviront à tendre une forte corde en travers du chemin. Et à peine l'avons-nous tendue à quelques centimètres du sol, que nous apercevons une lueur au loin, les lanternes de la voiture. Chacun prend son poste et ses dispositions de combat. King brandit un gourdin. Anderson serre ses poings énormes. Son matelot, qui a été cow-boy à un moment, déroule un lasso dont il cédera pour jeter le bourre à bas de son cheval. Alors il se précipitera avec son capitaine sur le plus redoutable de nos deux adversaires, le réduira à l'impuissance, et King et moi, nous pensions venir aisément à bout du cocher, surpris par l'accident. Nous entendons le tintement des grelots, la cadence heurtée du trot, le rythme large du galop. Patatras ! Les chevaux butent sur la corde, s'abattent, le cocher tête en avant, gicle du siège. King et moi, nous nous élançons. Lorsqu'un éclair trouve la nuit, une détonation éclate, une balle siffle à mon oreille. Et déjà un deuxième coup de feu est parti. Je ne l'ai pas attendu. À plat ventre, je rampe dans les broussailles, et retenant mon souffle, je me tiens coi dans un buisson dont les épines me déchirent les mains et la figure. C'est le boeur, le grand boeur, encore plus gigantesque que celui que nous avons vu l'autre fois. Il avait piqué de l'éperon. Son cheval pointait et d'un saut prodigieux retombait ferme sur ses sabots au milieu de la route. Et le boeur, avec sa carabine à répétition, une Winchester à 14 coups, tirait sans discontinuer, couvrant la voiture et son cocher par un feu d'enfer. Le capitaine, avec ses monstrueux biceps, l'ancien cow-boy avec son lasso, n'ont qu'à se terrer. C'est ce qu'ils font d'ailleurs. Cependant, sous la protection de cette fusillade, le cocher travaille le plus tranquillement du monde à relever ses chevaux. « Il n'y a rien de cassé » crie-t-il au boeur entre deux détonations. Il coupe la corde, remonte sur le siège, enveloppe d'un coup de fouet magistral ses deux coursiers qui partent au trot allongé. Le boeur reste encore un moment campé, couvrant la retraite de feu de sa carabine. Puis au galop, il s'en va rejoindre le dépôt dont on lui avait confié la garde et qu'il sait si bien défendre. Cette attaque de grand chemin souleva dans la colonie du Cap un émoi qui se répercuta en Angleterre. La police arrêta à profusion des nègres, des ivrognes, des indigents. Le capitaine et son second perdait la tête, plein d'anxiété. Charlie King n'était pas moins effrayé. Tous les trois eussent préféré être à 1000 lieues du cap. Je ne fis rien pour les retenir. Au contraire, je leur payais leur passage à Londres et les munis encore de quelques viatiques. Ah, les imbéciles! Quel débarras! Car je persiste ferme dans ma résolution à m'emparer des diamants. Et une fois de plus, je me plais à constater que les temps de violence sont passés. Je repris avec ardeur mon commerce de plumes d'autruche. Il laissait quelques bénéfices, car j'envoyais cette marchandise à Londres en consignation à Bob Bay, le receveur d'Hersington, et l'avance me donnait du profit. Il me fallait un commis pour remplacer King. J'engageais le fils d'un constable, d'un agent de police. Ah, le brave et l'honnête garçon! Et la considération que la police avait pour lui rejaillissait sur moi. Quand nous passions dans notre carriole, les collègues de son père nous saluaient tous les deux. Quelques mois s'étaient écoulés depuis l'attaque manquée. On n'en parlait plus guère. Et la justice avait relâché tous les malheureux qui avaient porté le poids de ses soupçons. J'avais eu souvent affaire au postmaster, au percepteur de la poste, mon voisin. Nous faisions la causette et il m'avait invité à lui faire visite le soir. Si bien que, l'ayant précédé, il me trouva chez lui. Dans son empressement à me tendre la main, il déposa sur un meuble les clés du bureau. Je les subtilisais, prétextant le besoin. Je me retirai dans le lieu de nécessité, où, avec un morceau de cire, je pris l'empreinte de ces clés que je remis à la place où je les avais prises. Quand j'eus forgé les fausses clés, je m'habituai à pénétrer la nuit dans les locaux de la poste, afin de me familiariser avec les êtres et aussi voir comment se comporterait le coffre-fort. Il fut rébarbatif, demeura réfractaire à mes sollicitations. Devant cette résistance de la matière inerte, la nécessité m'apparut de trouver un stratagème. En revenant d'une tournée, je fis 3 paquets des plumes que j'avais achetées, et arrêtant la carriole à Stellenbosch, je me les adressai à moi-même, à Cape Town. Je connaissais l'horaire des distributions et je savais que ces paquets, j'avais pris soin de les recommander, arriverait le jour même à mon bureau de poste, mais trop tard pour être délivré chez moi avant le lendemain. Le soir venu, j'épiais le passage du bon percepteur qui, les clés de son bureau dans sa poche, se disposait à rentrer chez lui. Je courus à sa rencontre et, parlant comme si j'étais à bout de souffle, je lui dis: Oh, j'arrive trop tard. Oh, j'ai cependant couru à perdre haleine. Sapristi, que c'est embêtant. Mais qu'est-ce qu'il y a? En quoi puis-je vous être utile? Bien, j'attends 3 petits colis recommandés. Je veux penser les expédier en Angleterre par le bateau qui part demain matin. J'ai cru que vous les aviez reçus, peut-être. Vous me les auriez délivrés à votre bureau et j'aurais fait tout de suite la réexpédition après avoir vérifié le contenu. Nous pouvons aller voir s'ils y sont. J'avais dans ma poche une mignonne chaufferette japonaise qui me servait à ramollir de la cire. Le percepteur alla au coffre-fort où, tous les soirs, il serrait les objets chargés et recommandés. Tandis qu'il l'ouvrait, je notais le secret. Ils furent en tête à la recherche de mes colis et me tournaient le dos. De biais, j'étendis la main et sans aucune secousse, je retirai la clé laissée dans la serrure et à laquelle l'autre petite clé pour le secret restait attachée par un bout de ficelle. Je les glissai toutes deux dans ma poche, les plongeai tour à tour dans la cire ramollie et je me hâtai de fourrer la chaufferette dans une autre poche, puis je remis la clé à la serrure. Il avait trouvé les paquets. Je les vérifiai et accomplis les formalités de la réexpédition. Je le remerciai, sans trop d'effusion, de ce qu'il devait considérer comme un service des plus légers. J'avais hâte d'être rentré, de procéder sans retard à la besogne la plus difficile. Confectionner les clés, c'était peu de chose. Mais je ne pouvais espérer de le réussir si bien, sans autre tâtonnement, qu'elles ouvrissent tout de suite ce coffre-fort si rébarbatif. Eh non, elles eurent beau solliciter, taquiner, la serrure mystérieuse resta inexorable. J'affûtai donc ces clés. J'y travaillais avec tant de constance et d'opiniâtreté, avec tant de prudence aussi, qu'à ma quatrième tentative, le coffre-fort bâilla, révélant ses profondeurs. Quelle joie, sans éclat bruyant, dans le calme nocturne. Je voyais devant moi, aligné, entassé sur des tiroirs, quantité de plis chargés. Combien d'argent y avait-il là? Je ne cherchais même pas à le savoir. Qu'en aurais-je fait? Une seule de mes visites dans ce local devait être fructueuse, et ce serait la dernière. Quand j'aurais enlevé The Derby, le butin que l'on attend. Oui, mais comment le faire venir? Comment l'amener dans cette caisse? Non loin du site où la ferme attitude du bourg avait fait si piteusement pour nous échouer notre attaque, coule la Bride. C'est un fleuve torrentueux. La communication avec les deux rives peu fréquentes est assurée par un bac. La voiture y arrivait régulièrement après la chute du jour. Et le transport s'opérait à la clarté des flambeaux. Je me mis à l'embuscade, tapis parmi les bambous de la berge. Et quand j'estimais que la voiture devait encore mettre une demi-heure à arriver, je me glissais dans le bac, et couché au fond, j'empoignais le câble en fer que je me mis à limer en zigzag, puis je mouillais de quelques gouttes d'acide nitrique la section fraîche et brillante, de manière qu'elle parut instantanément rouillée et ternie. La voiture arriva. Elle était escortée de quatre bourgs, bien que manquée, notre attaque avait semé la prudence. Le cocher héla le passeur, qui, sorti de la petite taverne, seule habitation en ce lieu désert, où il passait le meilleur de son temps, sautait dans le bac et se mit aussitôt à blasphémer Dieu et ses saints. Le câble rompu sous le choc, le bac décrivait un quart de cercle et dérivait, emporté par le torrent. Il y eut un moment de confusion, mais il fallait se hâter si on voulait arrêter le bac dans sa course vers la mer. Les bourgs durent mettre leurs chevaux à bleu. Vains furent leurs efforts. Le bac, saisi par le courant, filait avec une vitesse vertigineuse. Et il fallut aux cavaliers toute leur intrépidité et leur adresse pour empêcher le flot tumultueux d'entraîner leur monture. Je n'avais pas attendu d'être témoin de l'accident. J'appris le lendemain par les journaux que le câble s'était rompu à un point où le fer était mangé par la rouille. La voiture en détresse devant le fleuve infranchissable, un conseil fut tenu. Les bourgs proposaient de passer sur leurs chevaux à la nage, avec la cassette au diamant enlevée de la voiture. Mais leur essai de sauver le bac avait démontré le péril d'une telle tentative. Et on n'avait pas les clés. Le cocher préféra se résoudre à un détour. Et quand les diamants arrivèrent enfin à Cape Town, il y avait deux jours que le bateau pour Londres était parti. Il incombait à la poste de garder le colis jusqu'au prochain départ. Quand je sus pertinemment qu'il s'y trouvait, et les journaux l'avaient relaté tout au long, je m'introduisis dans le local qui n'était devenu si familier, j'ouvris le coffre-fort sans la moindre difficulté, et je m'appropriai la fameuse boîte en acier, l'objet de mes peines et de ma convoitise. Alors, je ne vis plus d'inconvénient à m'emparer aussi de quelques-unes des lettres les plus lourdement chargées. Dans mon petit magasin, le sol était de la terre, simplement. Et tous les jours, Jimmy devait le ratisser de peur à ce que je lui disais, que les insectes ne vinssent à manger mes plumes d'autruche. Avec facilité, je creusais un trou où j'enterrais la cassette. J'eus soin de bien réparer l'endroit. Je ratissais et je fus me coucher. Jamais je n'ai mieux dormi. Ce fut un beau tapage le lendemain du vol. Pas une trace d'escalade, pas une trace d'affraction. Tout naturellement, et de l'avis unanime, il ne fallait pas chercher d'autre coupable que le percepteur de la poste. Et il eut beau protester, on le mit en prison. Contrairement à l'attente générale, la rigueur de la geôle, la dépression et l'ennui ne purent lui arracher un aveu. Ses accents de sincérité finirent par émouvoir. On dut se résoudre à le relâcher. Mais, faute de preuves, la présomption s'offrait évidemment et trop logique. Elle fut cause qu'on ne cessa de le surveiller, car enfin, il aurait pu cacher le maigre magot dans l'intention de le reprendre en étant moins tourmenté. Le percepteur, mis en liberté, l'émotion se fit plus intense. On parla de proclamer l'état de siège dans la colonie. La police aurait perquisitionné chez tous les habitants. On ne s'arrêta pas à cette impossible mesure. Mais la plus stricte surveillance fut exercée au départ des navires. On fouillait les bagages, on fouillait les voyageurs. S'il avait fallu compter avec les exigences du commerce, on aurait à la sortie inspecté toutes les marchandises, ouvert les caisses et ventré les ballots. La métropole avait répondu à la demande de sa colonie. Londres envoyait à Cape Town le plus retors de ses détectives de Scotland Yard. Même un policier parisien avait débarqué, avide de toucher la récompense promise. Et on racontait sur celui-là des choses les plus invraisemblables et les plus burlesques. Il avait noirci ses mains et sa figure, comme font les ministrels, et avec une perruque crépue sur la tignasse, il avait tenté de faire causer les nègres avec ses quelques mots de mauvais anglais. Avide de nouvelles comme tout le monde, prenant part de la curiosité générale, je ne laissais pas de vaquer à mes affaires. Bref, j'étais la dernière personne que l'on pût soupçonner, car les policiers, tout comme le commun des mortels, ne cherchaient pas qu'ils se cachent point. Une ferme assurance a toujours passé pour la preuve d'une conscience tranquille. Et je continuais à courir le pays dans ma carriole, avec Jimmy, à la recherche des plumes de parure, marchandant, grognant, l'air plus godiche que jamais. On persistait à parler du vol, bien que plusieurs mois se fussent écoulés depuis la mystérieuse disparition de la cassette. Jimmy, en bonne posture de savoir ce qu'on en disait dans la police, me rapportait que, dans l'idée des détectives, si le voleur n'était déjà en Europe, il devait bientôt s'y rendre pour la vente de ses diamants. Je décidai de tourner le dos à l'Europe et d'aller en Australie. Afin de justifier ce voyage, je commandai au vanier deux paniers à claire-voie, comme les cages à poules, mais très grandes, très hautes, en accord avec l'usage auquel je les destinais. J'achetai alors un couple d'autruches, déclarant que je comptais implanter l'élevage de ces oiseaux sur la terre australienne, où l'on ne connaît que les casoars aux plumes peu estimées. J'avais déterré et forcé la boîte d'acier pour l'enfouir encore, mais vide, cette fois. Je répartissais les diamants, 4 sachets, que je tentais d'attacher sous les ailes de mes autruches. Elles y donnèrent de tels coups de bec que je me hâtais de les en débarrasser. Et que serait-il arrivé si les sachets crevés et un de ces diamants échappés à ma recherche avait été trouvé dans mon magasin? Je logeai donc fort simplement les paquets de pierres dans mes poches. Et de les y répartir judicieusement, cela me prit beaucoup de temps et exigea une sérieuse attention. Jimmy avait accepté volontiers d'être du voyage. Et quand vint le moment où nous embarquer et qu'il s'entretint familièrement avec les détectives du pays, ceux qui étaient venus d'Europe à la rescousse n'eurent certes pas l'idée de me suspecter. Je ne fis que toucher barre à Melbourne. En route, mes 2 oiseaux avaient crevé. Bien que je n'eusse pas été étranger à leur trépas, je m'en montrais fort affligé. Jimmy comprit qu'il me devenait inutile. Il reçut ses gages, une gratification, et je payais son retour au Cap. Et je retournai à Londres où, tout de suite, je fus relancé par Charles King. « Alors donc, vous avez réussi tout de même ?»« Quoi ? Faites donc pas l'imbécile. Cela prend pas avec moi. La chose a fait un bruit énorme, j'ai bien ri. »« Alors ? Alors, il me faut ma part. Si vous m'avez laissé faire avec mon revolver, je descendais le bourg. Vous auriez eu part égale. » En échange de 2 000 livres, 50 000 francs, il me donna sa parole d'honneur qu'il saurait se taire. C'était à bon compte, car je rapportais de cette expédition, en diamants et en numéraire, plus de 120 000 livres, 3 millions de francs. Mais comment vendre ces diamants ? Ils étaient à l'état brut et les receveurs n'en voulaient pas. Les seuls acquéreurs possibles, c'étaient les marchands de gros, ceux qui fournissent aux tailleries. Immédiatement, je songeai à John Smith. Je le fis venir de New York. Jadis lapidaire, il était devenu crook, voleur à la dérobée. Inconnu de la police, il marquait bien et se connaissait en pierre fine. Je lui ouvris une boutique dans Halton Gardens, la rue dans Clemenswell, sur d'humbles comptoirs en bois peint, les joailliers en gros font ruisseler par cascade les diamants, les gemmes et les perles. Je fis le voyage d'Amsterdam et d'Anvers, le pays des failleries, dans le but de rabattre les clients. Et c'est ainsi que je lis à connaissance, avec un gros, un épais envers soi, qui acheta presque tout le lot volé au Cap. C'était un sot qu'il manquait pas de finesse commerciale et de savoir-faire. Contradiction souvent remarquée dans le monde des affaires. Il ne fut pas long à deviner d'où venait la marchandise que je lui offrais, et il exigea du rabais. Les besoins d'argent me talonnaient, je cédais. Il ne parlait guère l'anglais, mais son flamand lui faisait comprendre l'allemand, que je baragouinais un peu. Quand il marchandait trop âprement, je lui disais « Qu'est-ce que de faire, Bruce Reininglug ? Bien malin qui ne profite jamais. » Cependant, ses diamants volés par lui achetés en dessous du cours du jour furent pour cet homme si peu digne de la fortune le début d'une grande richesse qui lui permit d'acheter des honneurs par lesquels il accentua son caractère de ridicule et de trivialité. Je m'amusais à piloter ce gros homme dans les lieux de plaisir, au bar de l'Empire ou bien au club du Gardénia. Sa perplexité devenait extrême à voir tant de jolies femmes. Il finissait tout de même par suivre une de ces odalisques. Et quelque temps après, la dame, me revoyant, me disait d'un air pincé et moqueur, « Votre ami, eh bien, n'est pas un gentleman. Et qu'est-ce qu'il a fait ?»« Mais en me quittant, il a déposé fort insensiblement un souverain, 25 francs, sur la cheminée. » Ma petite folle, c'était pour la soubrette. Tenez, il m'a chargé de vous remettre ça. Ce Turner, 10 livres, soit 250 000 francs. Strauss, à Danworth, chapitre 4. Je suis devenu suspect. Mes complices me coûtent cher. De la prison dans l'antre des brigands. Pourquoi et comment j'ai volé l'éléphant blanc de Gainsborough. Je mets le nez à la fenêtre et qu'est-ce que je vois? Deux hommes montent la garde. Habillés avec une fausse élégance, ils font semblant de ne pas se connaître, ils affectent de ne pas regarder ma maison. C'est curieux, comme ils se font remarquer par leurs airs de ne pas y attacher plus d'importance que ça. Nous allons voir. Vite, mon chapeau, mon par-dessus, ma canne. Il me file. Je suis filé par la police. Essayons encore. Et le cab. Je monte dans la voiture, je rabats les vantaux. Je ne me presse pas de dire au cocher, penché sur l'ouverture où je veux être conduit. Et je regarde par la lunette du fond. Ils sont dans un cab et attendent. Où je veux être conduit? Parbleu, bon, ce sera à Scotland Yard. Je vais passer ma carte au surintendant, c'est-à-dire au chef de la sûreté. Devant le sérieux administratif du fonctionnaire, je me sens en humeur de plaisanter. Ne trouvez-vous pas, monsieur le chef, qu'on voit errer dans Londres trop de criminels impunis pour qu'on puisse pardonner à vos agents d'espionner les personnes paisibles? Le chef paraît moins gourmé. Il me jette un regard narquois. Vous plaisanterez agréablement, monsieur Raymond. Bien oui, j'ai l'honneur de vous apprendre que je suis filé par vos agents. Oh, j'ai rien à craindre de la loi, mais vos détectives m'agacent et me compromettent. Et pourquoi aussi, monsieur Raymond, jouez-vous si parfaitement avec la dynamite? À cette attaque directe, il s'en faut de peu que je perde confiance. Quoi, serait-il que c'est moi qui, l'autre semaine, dans la banque de Lombard, Street est introduit dans la serrure du coffre-fort une mignonne cartouche de dynamite et fait sauter l'obstacle sans le moindre bruit, grâce à mon plaid, ma couverture de voyage qui, pliée et repliée, a étouffé, assourdi la détonation, l'a rendue imperceptible. Mais il me rassure. Vous allez souvent à Paris? Oui, très souvent. On vous y a vu avec des anarchistes et la sûreté française nous a demandé des renseignements. Je pars d'un franc éclat de rire. Il me tendit la main. « Oh, c'est un malentendu, monsieur. »« Non, je ne suis pas encore suspect. Mais sûrement je vais être compromis par mes complices. Ils sont trop bêtes. » »« Ils ne prévoient que l'ensemble. Ils en sont encore à savoir que tout détail a son importance. » Il ne s'inquiète pas du grain de sable dans les rouages qui arrête tout mouvement. Migotti, un clever boy avec qui j'ai déjà entrepris et mené à bonne fin plus d'une entreprise qui fut fructueuse, est prompt et énergique dans l'action. Il est audacieux, adroit de ses mains. mais il a de jugement tout juste autant qu'une poupée. Il a fait connaissance avec un monsieur P qui ne peut plus se passer de lui. Ce qui m'intéresse dans cette liaison, c'est que ce monsieur P est riche, très riche. C'est un gros marchand de pierres précieuses. Il possède au Cap une concession diamantifère, et tous les 15 jours, le steamer qui vient de l'Afrique du Sud lui apporte un lot de diamants bruts qui vaut de 300 000 à 600 000 francs. Et justement, Johnny Smith vient de me faire savoir que si nous ne renouvelons notre stock de marchandises, il faut nous résigner à fermer le comptoir de Hatton Gardens. Il nous faut des diamants bruts. Presque tout le lot que j'ai rapporté du Cap est liquidé. Si vous pouvez en acquérir au même prix coûtant, c'est ça qui sera la bonne affaire, fait Johnny Smith, non sans finesse. Moi, je veux bien. Il nous faut les diamants de M. P. Nous les aurons. Mais si l'occasion fait le larron, comme l'affirme un proverbe connu, la logique établie et la pratique démontrent que, plus sûrement encore, le larron fait l'occasion. Comme par hasard, je rencontre Migotti en compagnie de M. P. Présentation, on prend quelque chose ensemble, on cause art, littérature, théâtre, plastique vivante surtout. Au fait, qu'est-ce qu'on joue ce soir à Drury Lane? Drury Lane, bon bien gay. Serrez, gourmet. Est-ce que l'Empire ne vous séduit pas davantage? On écoute si l'on veut, on bavarde quand on a envie. Et les petites femmes? Oh, mais comment donc? Ce que j'en disais, c'était pour vous. Moi, je préfère l'Empire. Et vous, Megotti? Naturellement. Bien sûr, naturellement. Ce gros réjoui va nous rendre la tâche facile. Et mon plan est déjà tracé. Et ce steamer qui doit arriver après-demain avec ses pierres, les pierres de M. P. Il n'y a pas de temps à perdre. Nous allons donc au Music Hall, puis nous soupons en société aimable. L'aube paraît et ne marque aucun étonnement de nous trouver encore réunis. Megotti a une idée lumineuse. Il est vrai que je la lui ai soufflée. Il se plaint du mal aux cheveux. Dans un tel cas, rien de souverain comme le bain turc. Et c'est là une idée généralement admise. Monsieur P. n'hésite pas à la partager. Ah ben, va pour le vin turc. Et nous y allons. Mais comme nous y sommes, mon envie a passé de me saturer de vapeur chaude. Et tandis que Megotti et Monsieur P. s'attardent dans la béatitude du massage, je fouille les poches de la victime. J'y trouve les clés de son coffre-fort. J'en prends l'empreinte à la cire. Le steamer est arrivé et les clés sont affûtées. Tout va bien. Megotti fait une visite à son ami dans ses bureaux. Joe Elliott m'a présenté Seslovitch, de qui j'ai déjà entendu parler à propos de très beaux vols qu'il a parfaitement réussi. Sieskovitch est dans les meilleurs termes avec un comptable de la banque Coase. Un bon garçon qui trouve son salaire pas trop modeste. Comme on ne parle pas de l'augmenter, il pense à se pourvoir lui-même. Seslovitch lui a suggéré ce qu'il faut faire. Et il marche. Et Seslovitch m'expose son plan. Il va, avec Joe Elliott et 5 autres camarades, faire un voyage dans le Levant. En route dans les principales villes, il présente au correspondant de la banque Coates de fausses lettres de crédit. En tout pour 500 000. Il me propose d'avancer les frais et me promet 1/8 du bénéfice. Je veux bien, mais je stipule qu'ils se sépareront et encaisseront le même jour à Munich, à Francfort, à Vienne, à Budapest, à Constantinople, à Bucarest et à Smyrne. Et au mépris de leurs promesses, ils restent ensemble, si bien que lorsqu'ils se présentent à Smyrne, le vali, à sa demande du consul d'Angleterre, les fait coffrer. On les juge, ils sont condamnés à 7 ans de bagne. Sous les bourrades et le fouet des chaouches transportés à Constantinople, ils sont mis en prison. Heureusement pour eux, ce finaud de Joe Elliott s'est vite rendu compte comment il convient d'agir à la Turque. Il m'avertit par une lettre. J'arrive. De bakchich en bakchich, je parviens aux fonctionnaires que la chose concerne. C'est le directeur de la prison. Il consent une évasion. Et c'était toutefois pour un seul, un nommé Chapman, qui a ce qu'il affirme lui a manqué de respect. Il m'est impossible de fléchir cette dignité orientale. Bref, Seskovitch, Elliot et 4 autres de la bande peuvent s'en aller. Oh, ils ne se feront point dire 2 fois. Cela m'a coûté la forte somme. Et comme le geôlier, dans le but de couvrir sa responsabilité, c'est-à-dire dans la crainte de devoir partager l'aubaine avec quelques supérieurs, a tout de suite signalé la prétendue évasion, j'engage la troupe à faire diligence et à franchir sans retard les frontières de l'Empire ottoman. Ils ne pouvaient songer à s'embarquer à Constantinople, leur signalement ayant été transmis à toutes les autorités du port. Je les installe dans le train qui part pour Andrinople. Je leur remets de l'argent, je leur souhaite bon voyage, et je retourne à Londres bien tranquille sur leur sort. D'Andrinople, il aurait été aisé de gagner Salonique, où, par un caboteur, ils auraient pu cingler sur Athènes. Mais ce Seskovitch avait des lettres. Il persuade ses compagnons que le voyage à cheval, par les monts et les plaines, sera plus agréable et plus sûr. Ils prennent un guide, visitent les sites héroïques. L'Olympe reçoit leur vénération. Ils passent par la vallée du Tempé, chantée par Virgile. Mes clever boys, l'âme pleine des glogues, chevauchent nonchalamment dans les paysages agrestes. Soudain, ils se voient entourés d'hommes moustachus, habillés de guenilles bariolées et sordides. Leur attitude, la menace des fusils braqués, mieux que des mots, commande la docilité. Les malheureux clever boys s'y résignent et se laissent conduire dans l'antre des brigands. C'est la grotte classique dans l'anfractuosité de la montagne. On les y traite avec égard, sauf que leur estomac, accoutumé aux fortes viandes anglaises, se révolte contre l'acidité du lait caillé et la faveur du bicot bouilli dont on prétend les régaler. Et voilà ce que John Elliot vient me rapporter à Londres. Puis il ajoute que, moderne Régulus, il a dû promettre aux brigands qui l'ont laissé partir qu'il retournera auprès d'eux avec ou sans mon argent, car il est délégué par ses camarades pour aller chercher la rançon que les brigands exigent. 50 000 francs. Oh, une paille. Je les donne. Et je n'ai plus rien. J'ai réduit mon train de maison. J'ai vendu le yacht, liquidé ma part dans l'écurie de course. Et je me vois astreint à la prudence, car à la police, s'ils n'ont aucune preuve dont ils puissent se prévaloir pour me mettre à l'ombre, tout de même, ils commencent à me soupçonner et me surveillent. D'où leur vient cette suspicion? Oh, c'est ce que je ne saurais tirer au clair bientôt. Ce qu'il me faut maintenant, c'est de l'argent, acquis sans imprudence. Et quand je n'en ai pas, je songe au Gainsborough, au fameux tableau de Gainsborough, la duchesse de Devonshire, que j'ai volé il y a 4 ans et dont la disparition a fait couler les flots d'encre, mobiliser les polices des deux hémisphères, laisser la ténacité des détectives les plus énergiques. Comment je l'ai volé? Oh, je veux d'abord dire pourquoi je l'ai volé. Quand l'un de nous, j'entends un clever boy, connu et coté, s'est approprié des banquenotes, ou bien s'il a encaissé des banquenotes qui sont bonnes par un chèque qui est faux, il part par le premier train à partir, ou bien encore c'est un complice à qui il a refilé l'argent qui fait le voyage. L'essentiel, c'est que dans le moindre détail, les banquenotes soient échangées. Sinon, les numéros étant connus, elles ne peuvent servir qu'à faire arrêter celui qui tente de les écouler. Malgré toute célébrité, si le vol ou la fraude se découvre instantanément, comme le télégraphe devance le train, la lenteur de la police est le seul facteur qui puisse intervenir en faveur du voleur. J'ai encaissé un faux chèque, et Sneaky Davy, mon vieux complice, est parti d'Ardar par Calais et Douvres à Paris, et dans le bureau de charge du grand hôtel, on l'arrête. Le gouvernement anglais demande son extradition, et la justice française l'accorde. Il est à Londres enfermé dans sa prison. Oh, je jure de l'en tirer. Mais comment? Oh, je l'ignore absolument. Mais je trouverai. Il n'y a pas d'exemple que j'ai manqué à ma parole, surtout quand cette parole, je l'ai donnée à moi-même. Tandis que je ruminais là-dessus, il m'arriva de me promener dans Bond Street avec un camarade clever boy notoire, Jack Phillips, plus connu dans la pègre sous le nom de Junka. Nous sommes souvent mêlés à un flot de populaire et nous remarquons une interminable file de voitures, voitures de maître, voitures de louage. Et tout cet affluent de monde n'est que pour la galerie de tableaux de mes Agnew. Si les Agnew, les plus gros marchands de tableaux de Londres, venaient d'acheter à la vente Christine la duchesse de Devonshire de Gainsborough. Ils avaient payé cher cette toile fameuse, 10 000 livres, 262 500 francs, et ils émettaient la prétention d'en obtenir le double. Ce jour-là, ils l'exposaient publiquement dans leur galerie. Je serrais fortement le bras de Junka. Une idée peut-être encore, mais venait d'éclore dans mon cerveau. Allons voir ça. Cela vous intéresse? Oh, tout à l'heure, vous aussi, vous trouverez que c'est intéressant. Sans le moindre soupçon de ce que je voulais dire, ému par l'esprit d'imitation qui guidait la foule des visiteurs, Junka formula son admiration devant une toile qui valait si cher. Et quand nous nous trouvâmes hors de cette cohue, dans un endroit où l'on pouvait causer, je lui dis « Il faut que nous volions le Gainsborough. » Il eut un sursaut, prit un air d'ahurissement, que d'ailleurs lui a ravir et dit « Hein? Mais qu'est-ce que nous en ferions? Personne ne voudrait l'acheter. Il ne pourrait nous servir qu'à nous faire coffrer, après nous avoir occasionné pas mal de dépenses. » Ferions aussi bien de voler l'éléphant blanc du Siam. Non, je parle sérieusement. Répondez-moi de même. Alors, je croyais que vous vouliez plaisanter. Expliquez-vous donc. Oh, c'est très simple. Nous trouverons bien une occasion de cambrioler la galerie de tableaux. J'enlève la toile, je laisse le cadre. On va faire autour de ce vol un tapage assourdissant. Monsieur Agnew, plongé dans la plus amère des désertions, verront alors luire un espoir. Car Sneed et Davy leur fera tenir, par l'entremise de leur avocat, un petit bout de leur peinture, à seule fin de leur prouver qu'il est en état de la leur restituer, s'ils consentent à se porter caution pour lui, qu'il soit remis en liberté. Provisoire! S'exclama Junka en riant de toutes ses dents. Mais c'est l'argent de Monsieur Agnew qui dansera, répondis-je, avec toute la gravité requise. Nous convînmes alors que nous ne serions pas trop, je crois, de trois pour mener à bien pareille entreprise. Joe Elliott avait joué un des principaux rôles dans l'affaire du faux chèque, cause initiale de la nouvelle aventure. Je m'ouvris à lui et il accepta sans hésiter. La saison nous était favorable. Nous étions en avril, le mois des brouillards jaunes, les fameux brouillards de la Tamise. On ne nous pas à attendre. Par une brune dense, épaisse, un brouillard à couper au couteau, Joe Elliott fut délégué en qualité de contre-veilleur. Il eut à emboîter le pas au policeman de garde dans Bow Street et à nous signaler, par des exclamations convenues, l'approche ou l'éloignement du danger. Besogne délicate, car il fallait une attention soutenue et, je dirais, du flair, pour que le contact restât permanent dans cette buée, que le suiveur ne perdît point tout compte les couples traces du suif qui pouvaient surgir inattendues et si gravement importun. Junka, un colosse, fut se poster sous les fenêtres de la galerie. Celle-ci se trouvait dans un rez-de-chaussée. Il est vrai, mais c'était un de ces rez-de-chaussée surélevés, comme on en voit tant à Londres dans les grands bâtiments des artères commerciales. Moi, je l'ai dit, je suis de petite taille. Je montais sur les épaules de Junka et puis m'accrochais à l'enseigne en bois qui régnait tout au long de la façade de la galerie. Je fis un rétablissement et me trouvai sur la margelle de la fenêtre. Par fortune, je pus accrocher, me dissimuler derrière l'enseigne. Sans plus de retard, je me mis à la besogne. Il s'agissait d'ouvrir une fenêtre à guillotine. Et justement, pour ce genre de fermeture, j'avais inventé quelque chose d'assez coquet, un outil très fin qui permettait d'ouvrir du dehors sans laisser la moindre trace. Quand je fus parvenu à soulever le montant, assez pour me glisser par l'ouverture, j'entrai. J'avais une lanterne sourde. Je trouvai un escabeau et en quelques instants, je détachai la peinture de son cadre. Je retrouvai Junka et ses épaules qui me servirent de marchepied pour atteindre le pavé public après que j'eus soigneusement refermé la fenêtre par où j'étais entré. Ce fut un vol sensationnel. Je m'étais attendu à un beau tapage, mais ce que j'avais rêvé se trouva être moins que rien en présence de la réalité. Y avait-il eu vol seulement? C'est juste ce que l'on se demanda quand, malgré les recherches les plus minutieuses, on ne put relever aucune trace ni d'effraction, ni du passage des voleurs. Mais par où était-il entré? Par où était-il sorti? Où pouvait bien se trouver maintenant le fameux tableau? Autant de questions posées à la police, et auxquelles la police chagrine et troublée ne savait que répondre. Pendant que l'on se démenait dans les suppositions les plus absurdes, que les détectives, faute d'un soupçon, piétinaient sur place et que les journalistes, faute d'informations, inventaient des choses possibles, mais peu véritables, je poursuivis l'exécution de mon dessein. Je me rendis chez un sollicitor qui était des nôtres. Jadis emprisonné pour vol, il était devenu homme de loi. Après qu'il se serait abouché avec Snake et Davy dans la prison, il devait aller trouver M. Agnew. Ceci ayant été bien compris, le hasard rendit notre plan si laborieux, tout à fait inutile. Car le sollicitor très honorable que Snivelé Davy avait commis à sa défense découvrit une cause de nullité dans l'arrêt d'extradition, la justice française ayant commis l'erreur d'y qualifier l'extradé principal auteur du faux. Le banc de la reine, la cour de cassation, admit l'argument du sollicitor. Et Smithry Davy, remis en liberté, toute démarche pour le faire libérer devenant superflue. Et comme Junka l'avait dit, nous nous trouvions en possession d'un éléphant blanc, un objet unique au monde, et que tout le monde savait être entre les mains d'un voleur. Le présenter en vente à n'importe qui, n'importe où, devenait une folie insigne. Autant offrir de suite ses mains aux menottes afin de se dénoncer soi-même à la police. Aucun receleur n'était disposé à aventurer la moindre avance sur pareille marchandise, absolument invendable. Seuls Messieurs Agnew restaient les acquéreurs possibles du tableau dont ils étaient dépossédés. Ils avaient offert une récompense de 1 000 livres, 25 000 francs, à qui le rapporterait le Gainsborough. J'estimais avoir droit à davantage. Et je savais attendre.